Vous êtes encore là? Ah, c'est bien. Je vais juste vous poser une question. Avez-vous déjà vécu une résurrection? Non? Non? Je ne vous pose pas une colle. Hein? Avez-vous déjà vécu une résurrection? Vous savez, nous venons de vivre non pas une, mais deux résurrections. Amen. Pas une résurrection physique, mais une résurrection spirituelle. Parce qu'ils ont témoigné physiquement ce qui s'est passé à l'intérieur. Lorsque nous assistons à un baptême, nous sommes en présence de personnes qui disent publiquement au revoir à leur ancienne vie. Elles sortent du cercueil de la mort pour s'engager à suivre Jésus pour l'éternité et ce, dans une vie nouvelle. Donc, je vous repose la question. Avez-vous déjà vécu une résurrection? Eh oui, on a vécu deux là. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Je vous invite à la découverte d'un miracle de résurrection que l'évangéliste Luc nous fait le reportage. Vous savez, nous, on n'a rien inventé. Il y a eu des reporters bien avant. Oui, l'évangéliste Luc a été un reporter. Il a vu et il a témoigné ce que Jésus a fait. Et ses paroles ont été consignées dans la parole que nous pouvons lire cet après-midi. Dans l'évangile de Luc au chapitre 7, Luc chapitre 7, les versets 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Lorsque le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Il y a là le contexte du passage que nous venons de lire. Deux événements simultanés qui se produisent. Jésus est suivi par ses disciples et une foule. Et il rentre dans une ville, Naïn. Et au moment où Jésus et la foule et ses disciples rentrent dans la ville, au même moment, il y a une autre foule qui sortait de la ville. Une autre foule qui sortait. J'aimerais que l'on puisse examiner un peu, pendant ces quelques minutes, la situation de ces deux foules. Quelle était la situation de ces deux foules? Celles qui suivaient Jésus étaient peut-être curieuses de savoir ce qui allait se passer. Parce qu'il nous est dit le jour suivant. Et quand nous lisons les versets qui précèdent, il nous montre que le jour d'avant, Jésus avait opéré un autre miracle. Un officier romain qui avait un soldat malade sur le point de mourir va envoyer des personnes pour supplier Jésus de venir guérir cet homme-là. Et pour faire court, Jésus voit la foi du soldat romain. Et par là, il va guérir cet homme. Et la foule a vu cela. Et le jour d'après, la foule suit Jésus Peut-être que certains se posaient la question parce qu'ils étaient joyeux de voir ce qui s'était passé de vous à moi. Lorsqu'on vit une situation pareille, on ne peut qu'être heureux. On ne peut que se réjouir de voir quelqu'un qui était sur le point de mourir et que Jésus ramène à la vie. C'est une grâce, c'est une joie. On se réjouit parce que si rien n'était fait, c'était la mort. La foule était joyeuse, mais peut-être que certains étaient curieux, étaient perplexes. Ils voulaient savoir ce qui allait se passer avec Jésus. L'autre foule à l'opposé, l'autre foule, elle n'était pas joyeuse. Parce que nous venons de lire une veuve suivie d'une foule pleurait la mort de son unique fils. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Quelle tristesse! C'était la tristesse. Mais le contraste, il est réel. D'un côté, une foule joyeuse, curieux de savoir ce que Jésus va faire. De l'autre côté, une foule triste, parce qu'il y a un jeune homme qui est mort, sa maman étant veuve. Peut-être que cet enfant était son unique espoir. Elle était veuve, livrée à elle-même. Et là, elle vient de perdre son ultime espoir. Et lorsque ces deux foules se rencontrent, lorsque ces deux événements se produisent au même moment, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va triompher? Qui va remporter la victoire? Vous savez, la vie remportera toujours. Et c'est ce qui s'est passé. Ce que Guillaume et Martine ont fait nous prouve que c'est la vie qui triomphe de la mort. Ils étaient morts par leur péché. Ils étaient dans le tourment parce que le péché avait enveloppé, avait envahi leur vie. Mais lorsque Jésus s'est approché d'eux, lorsque Jésus leur a montré qu'il était celui qui pouvait leur communiquer la vie, ils ont accepté volontairement et à cause de cela, ils ont expérimenté non pas la tristesse, mais la joie et la paix que le Seigneur a déposée dans leur cœur. Et c'est pour cela qu'ils ont témoigné tout à l'heure publiquement et c'est quelque chose qui s'était produit au préalable. Et là, ils ont confessé devant vous, devant nous, ce que Jésus a fait dans leur vie. Ils ont proclamé que la vie a remporté sur la victoire sur la mort, la vie que donne Jésus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle vaut la peine d'être vécue. Parce qu'on ne peut pas prétendre être joyeuse si on n'a pas Jésus dans notre cœur. Quelqu'un me dira, « Oh pasteur, ne va pas sur ce terrain-là. J'ai tout pour être heureux. » Oui, peut-être c'est ce que tu penses. Mais que Dieu dit Dieu dans sa parole, c'est le plus important. Dans Jean chapitre 3, verset 36, il nous est dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et l'apôtre Jean dira encore ceci dans sa première épître au chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, lisez avec moi, n'a pas la vie. Je n'ai rien inventé. Je ne vous apprends rien de nouveau. C'est ce qui est écrit dans la parole. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. Parce que je peux me fabriquer une vie. Je peux aller emprunter une vie de quelqu'un d'autre. Mais cette vie-là ne me procurera pas la vraie joie. Cette vie-là ne me procurera pas le vrai bonheur. La vie qui me procurera la joie et le bonheur, c'est celle que Dieu donne à notre Seigneur, celui qui a livré sa propre vie pour que nous soyons sauvés. Oh, gloire au Seigneur! Ah, je me réjouis. Je me réjouis de voir Martine et Guillaume braver toutes ces difficultés. Le quand dira-t-on? Que penseront mes amis? Que diront nos voisins, la famille? Ils sont allés au-delà du jugement des hommes pour déclarer que assez, c'est assez. J'ai souffert dans ma vie. Et oui, maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur qu'ils ne vont pas passer par des difficultés, mais ils se rendent compte que maintenant, c'est Jésus qui est dans leur barque et qui les conduit. Et quel que soit ce qui se passe, ils ne sont pas seuls. Dieu est avec eux. Quelle grâce! Au verset 12, il nous est dit ceci. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. C'est une situation triste. Hein? Peut-être le jour le plus sombre de cette femme. Parce qu'au préalable, elle a perdu son mari. Parce qu'il nous dit qu'elle est veuve. Au préalable, elle a perdu son mari. Et là, son fils unique. Celui qui pouvait l'aider. Celui qui pouvait subvenir à ses besoins. Celui qui pouvait la consoler, celui qui pouvait être à ses côtés pour qu'elle ne soit pas seule, voilà celui-là qui est mort. Que faire? Que faire? Vous savez, c'est ce qui illustre notre monde aujourd'hui. Les hommes sont morts à cause de leurs péchés. Paul dira ceci dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Il ne parle pas là d'une mort physique. Parce que sinon, il ne s'adresserait pas à des personnes qui sont mortes physiquement. Mais il s'adresse à des personnes comme Guillaume et Martine qui ont fait l'expérience de la grâce de Dieu. Ceux qui ont goûté à la vie que Jésus a donnée pour leur rappeler ce qu'ils étaient avant. Vous étiez morts. Il dira aux chrétiens de Rome, dans son épître aux Romains, au chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes sont séparés d'avec Dieu parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu. Nous étions tous morts par nos péchés et rien n'a pu nous sauver, même pas la religion. Aujourd'hui, on entend, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, on entend parler de spiritualité, on entend parler de religion. Mais que peut faire la religion dans une situation pareille? Lorsque cette foule pleurait, ce jeune homme mort, où était la religion? Où était la religion? Guillaume l'a pu le dire tout à l'heure. Il a eu un enseignement en parlant de Dieu. Voyez-vous, on peut même avoir une certaine notion de Dieu. On peut apprendre beaucoup de choses sur Dieu, mais ce n'est pas ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la confiance placée en celui qui a livré sa vie pour que nous passions de la mort à la vie. Alors, quelle solution alors? Quelle solution? Lorsque Jésus et la foule entrent dans cette ville, au même moment sortait une autre foule, mais qui était en train de pleurer la mort de ce jeune homme. Que faire? Au verset 13, il nous est dit ceci. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur, l'ayant vue. Il fut ému de compassion. Jésus a vu la tristesse de cette femme. Il a vu les larmes qui coulaient au-dedans d'elle. Il a vu la souffrance. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qui se passait. Il savait déjà. Voyez-vous, cet après-midi, quelqu'un peut se cacher derrière la religion. Quelqu'un peut montrer une autre facette de sa personne. Mais le Seigneur te voit. Laisse-moi te dire, cet après-midi, Dieu te voit. Il connaît exactement la vie que tu mènes aujourd'hui. La question que j'aimerais que chacun se pose, allons-nous continuer, allez-vous continuer à vous cacher et périr, ou allez-vous accepter la vie que Jésus vous propose? Vous savez, comme moi, pendant longtemps, j'ai essayé de me cacher. Je peux me cacher aux yeux des hommes et faire semblant, comme si tout allait bien. Mais le Seigneur qui lit au-dedans du cœur de l'homme, lui qui nous a créés, il connaît exactement la vie que nous menons. Et il peut te dire cet après-midi ce qui ne va pas dans ton cœur. Ayant vu cette femme, il fut ému de compassion. Il toucha le cercueil et les hommes s'arrêtèrent. Quel amour, hein? Vous savez, quand il y a un cercueil, ce n'est pas la joie. Je ne vois pas quelqu'un qui va se lever en se disant « Ah, aujourd'hui, je vais aller me procurer un cercueil. » Y a-t-il quelqu'un ici? Prouvez-moi le contraire. Quelqu'un qui va se lever en disant « Eh bien, maintenant, ça y est, là, j'ai beaucoup. Hein, je peux me procurer le cercueil que je veux, un cercueil en or. » Je ne vois pas. C'est au moment où, ça sent la mort qu'on parle de cercueil. Quand il y a la vie, on ne parle pas de cercueil. Il est dit ceci, Jésus ayant vu cette femme, il fut ému de compassion. Donc, quand il y a un cercueil, ce n'est pas la joie, mais c'est la tristesse. On ne peut pas se réjouir quand il y a la mort. On ne peut pas se réjouir. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'il est dit, il toucha le cercueil et les hommes s'arrêtèrent. Pourquoi? Pourquoi se sont-ils arrêtés alors qu'ils sortaient pour aller enterrer cette âme? Les hommes s'arrêtèrent. Vous savez, les hommes, la mort ne triomphera jamais à moins que les hommes refusent la main tendue de Dieu. Quand Guillaume et Martine persistaient dans leur entêtement, comme tout un chacun, tous ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu, quand je m'entêtais à faire ce que je voulais, à refuser la main de Dieu, peut-être que c'est le cas de quelqu'un cet après-midi. Tu as bien vu ce que Dieu a fait pour toi. Tu as vu à multiples reprises Dieu qui t'a gardé. Tu aurais pu passer de l'autre côté, mais Dieu t'a gardé. Malgré tout, dans ton orgueil, tu crois que tu es arrivé par toi-même et tu rejettes la main de Dieu. Vous savez, la mort, elle ne triomphera jamais que dans la mesure où les hommes refusent la main de Dieu. Donc, ces hommes s'arrêtent et ça nous montre l'autorité que Jésus a. Il a une autorité sur les hommes, non pas une autorité qui asservit, mais une autorité qui procure la vie. Lorsque il a touché le cercueil, les hommes se sont arrêtés. Et qu'est-ce qu'il va dire, Jésus? Qu'est-ce qu'il va dire? Il s'approcha, il toucha le cercueil et dit, « Jeune homme, Je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Voilà la concrétisation de l'autorité de Jésus. Cette autorité qui n'asservit pas, mais qui procure la vie. Imaginez, lorsqu'il va toucher le cercueil, les hommes qui portaient ce cercueil continuent de partir. Il n'y aurait pas de vie. Il a le pouvoir de ramener à la vie. Il a le pouvoir de ramener à la vie ceux qui étaient morts. J'étais mort, comme Paul va le dire, vous étiez mort par vos offenses. Il est capable de redonner la joie au milieu de la tristesse. Lorsqu'il va prononcer cette parole, il est dit au verset 15, voilà le résultat. Et c'est ce qui nous réjouit. Et nous nous réjouissons pour Guillaume et Martine et pour bien d'autres qui ont accepté la main de Dieu, qui n'ont pas voulu continuer à s'entêter, mais qui ont réalisé cette vie que Dieu a voulu leur communiquer. Le résultat, il est dit ceci, et le mort. Ah, j'aime cette parole. Ah, j'aime cette parole. Hein. Et le mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il continue à s'endormir. Et le mort s'assit et se mit à parler. Gloire au Seigneur. C'est quelque chose qui échappe à l'entendement humain. Je n'ai pas cette autorité, moi. Je n'ai pas pu sauver Guillaume ou Martine. Encore aujourd'hui, je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas ce pouvoir pour sauver quiconque. Je n'ai même pas eu le pouvoir de me sauver moi-même. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est lui qui est venu me chercher. Et aujourd'hui, gloire au Seigneur, si Dieu n'est pas avec moi, qu'est-ce que je peux être? Il dira, voilà, à ce jeune homme, lève-toi. C'est comme s'il dira, voilà, aujourd'hui tu es mort. Voilà, c'est la tristesse aujourd'hui. Il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir. C'est les pleurs. Mais je t'ordonne aujourd'hui de retourner à la vie et je redonne la joie. Je redonne la vie. Au milieu de la tristesse, je vous procure la joie. Vous savez, lorsque Martine pleurait, elle l'a si bien dit. Ce n'était pas des larmes de tristesse. Ce n'était pas des larmes de tristesse. C'est ce qu'elle se remémore encore. Tout le travail que le Seigneur a fait dans son cœur. Et quand on se rappelle de tout cela, on ne peut que pleurer de joie. Parce que qui sommes-nous? Qui suis-je pour que Dieu prête attention à moi? Alors que je ne méritais rien, le Seigneur est venu à notre rencontre. Cet après-midi, je termine. Au milieu des larmes, au milieu de la tristesse, c'est la vie que Dieu veut te donner. Au milieu, je dis bien au milieu. Même quand tout semble sombre aux yeux des hommes. Parce que sur cercueil, les hommes n'ont pu rien faire. Ils étaient sur le point d'aller s'en débarrasser. Mais Jésus, par son autorité, c'est à cause de cela qu'il est venu à la croix mourir et au troisième jour ressusciter pour communiquer la vie. Cet après-midi, veux-tu t'entêter à continuer en te disant « Je peux réussir par moi-même » Cet homme n'a pas fait grand-chose pour revenir à la vie. Mais cet après-midi, ce que tu peux faire, c'est de croire. C'est ta seule responsabilité. C'est de croire que même si tout est perdu aux yeux des hommes, pour Dieu, c'est cette vie qu'il te communique. On va prier ensemble. Lorsque cet homme s'est réveillé, il nous est dit que toute la foule fut émue Et les hommes, ils ont vu quelque chose qui échappait à leur entendement. Il est dit qu'ils étaient saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut. Mais ils ne se rendaient pas compte que Jésus était prophète, mais il était bien plus qu'un prophète. C'était Dieu. Dieu qui s'est fait homme pour être parmi les hommes, afin de nous communiquer la vie. Et il disait, et Dieu a visité son peuple. Oui, c'était Dieu lui-même qui était parmi son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Ça peut être votre histoire ce soir, cet après-midi. Si simplement vous acceptez la main tendue de celui qui veut vous donner la vie. Y a-t-il quelqu'un, alors que les têtes sont baissées? Nul n'a besoin de savoir. Chacun se préoccupe de lui. Nous sommes devant Dieu. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui veut se dire, j'ai besoin de cette vie-là. J'ai tant souffert. J'ai beau essayer d'aller vers les hommes, je n'ai pas trouvé la solution. Mais la parole de Dieu me donne la solution. Et la solution, c'est Jésus. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui veut se dire, oui, je veux donner ma vie au Seigneur. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ne le faites pas pour faire plaisir à qui que ce soit ici. Parce qu'à l'heure de la mort, même le pasteur ne pourra rien faire pour vous. Sauf le Seigneur Jésus, celui qui nous communique la vie. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Prions ensemble, l'Église prie. Ô Seigneur, oui. Tu es le Dieu qui donne la vie. Ô Seigneur, non seulement nous nous réjouissons pour Martine et Guillaume, mais nous nous réjouissons, Seigneur, pour ces confessions. Seigneur, mon Dieu, je te prie dans ta grâce. Toi qui as communiqué la vie à ce jeune homme mort, Seigneur, communique cette vie à ceux et celles qui ne te connaissent pas cet après-midi. Oh, nous réclamons la vie venant de Dieu. Notre monde souffre, Seigneur. Tu le sais bien, les hommes et les femmes sont livrés à eux-mêmes, incapables, Seigneur, de se venir en aide. Ils ont beau crier à l'aide, personne ne peut les secourir. Mais toi qui lis dans le secret des cœurs, interviens cet après-midi. Seigneur, nous te bénissons. Tu n'es pas mort à la croix en vain, Seigneur, mais c'est pour nous redonner la vie. Alors cet après-midi, je te dis merci. Nous te disons merci. Merci parce que, oui, celui qui a la vie est au milieu de nous et il nous communique cette vie. Je te dis merci, Seigneur. Veuille dans ta grâce continuer à œuvrer dans les cœurs, Seigneur. Ne laisse aucun tranquille. Jusqu'à ce qu'ils réalisent au plus profond d'eux, Seigneur, leur besoin de toi, ce qui va les amener à s'humilier et à crier à toi, Seigneur, parce que tu nous dis que lorsqu'un malheureux crie, tu entends et du haut du ciel, tu l'exauces, Seigneur. Fais cela dans le cœur de mes amis, de nos amis cet après-midi. Ne les laisse pas, tout au long de cette semaine et les semaines à venir, tourmente-les à salut, Seigneur. Ô Éternel, nous bénissons ton nom. Parce que tu n'es pas venu communiquer la mort, mais tu es venu communiquer la vie. Et cette vie avec toi vaut la peine d'être vécue. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité dans le nom de Jésus. Amen.